Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour Michel.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous vous recevons toujours pour l'étude de votre livre « Comprendre la culture générale » qui est édité aux éditions Ellipse. Nous allons continuer donc la découverte de votre chapitre « L'homme symbolique ». La semaine dernière, vous aviez parlé du diable, des anges, de l'angélisme. Quel est le nouveau thème ?
Voilà, nous avions parlé de l'angélisme et des dangers de l'exaltation. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'homme sauvage, ce que les Allemands appellent le Wildermann, l'homme sauvage. Alors, vous savez, Vincent, qu'on peut verser dans la sauvagerie, non pas parce qu'on a une nature sauvage, mais après une expérience traumatisante. Par exemple, si l'on est idéaliste et que cet idéalisme a été déçu par la réalité. Je pense à l'exemple de Gilles de Rais. On connaît Gilles de Rais pour être le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Eh bien, il ne s'est jamais remis de la mort de celle-ci sur le bûcher. Qu'une sainte qu'il admirait au plus haut point ait été brûlée, fut la commotion de toute son âme. Que penser d'un monde où le plus digne est piétiné? Alors ce Gilles de Rais devint ce qu'on appelle le barbe bleue du Moyen-Âge. Il assassina sauvagement des enfants, et le monstre qu'il fut alors fut le dépit ou la revanche de l'ange qu'il ne put être dans un monde qui brûlait les anges. Il faut lire ici le livre de Joris Karl Huysmans, Là-bas, où il est question de l'aventure de Gilles de Rais, ainsi aussi que le livre de Michel Tournier, qui s'appelle Gilles et Jeanne. Donc il y a, je dirais, un reniement postulatoire de la bonté, de l'honnêteté. Vous voyez ce que dit Baudelaire dans le reniement de Saint-Pierre. « Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. » Alors, l'horreur absolue est souvent là où est conduit l'idéaliste absolu. Un esprit très impressionnable est ainsi sur le fil du rasoir. Je ne sais pas si vous avez lu, Vincent, le livre « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, mais est-ce que peut-être avez-vous vu le film « Apocalypse Now » qui en a été tiré ?
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Alors, dans « Apocalypse Now », ce colonel Kurtz, donc qui vient de « Au cœur des ténèbres » de Conrad et qui est joué par Marlon Brando, eh bien, il bascule dans l'autre monde, ce que j'appellerais le côté sauvage, comme dit la chanson « The Wild Side », le côté sauvage. Pourquoi ? Pour avoir vu trop d'horreur et ne pas avoir pu s'habituer à cette horreur. Donc Marlon Brando dit un moment dans le film qu'il a vu des petits-enfants vietnamiens dont on avait coupé les bras parce que précisément ils avaient été vaccinés par l'ennemi. Eh bien, cette vision d'horreur l'a fait basculer dans la folie et dans le sang. Comment continuer à être humaniste, comme nous l'avons dit la semaine dernière, dans la dernière émission, après avoir vu de telles horreurs? Dans la bouche du colonel Kurtz, dans Apocalypse Now, on a la phrase suivante. On trouve indécent d'écrire un gros mot sur les avions, par exemple foutre sur les avions, mais quand même on bombarde les Vietnamiens, vous voyez. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu le film aussi de Martin Scorsese, Taxi Driver, Vincent, peut-être pas.
Si. Alors, deux grands chefs-d'œuvre du cinéma.
Deux grands chefs-d'œuvre, voilà. Eh bien, voici ce qu'on lit dans le récit, le scénario de Taxi Driver, le texte qui lui a donné naissance. « Pour donner ma bénédiction de mort à cette grande nation, c'est-à-dire les États-Unis, qui m'a appris à tuer en me disant « Tu ne tueras point ». Vous voyez, ça c'est le roman dont a été tiré le film, hein, et le chapitre « L'homme de Dieu solitaire ». Vous voyez, l'idéologie sociale, c'est le catéchisme, tu ne tueras point. Néanmoins, on apprend aux soldats à tuer, et souvent à tuer de façon affreuse. Donc on peut exploser de violence à considérer cette hypocrisie, ce double langage. On peut dire, comme le dit Fritz Horn à la fin de Mars, un livre que nous avons déjà évoqué, « Et vive à la muerte, vive la mort hein, », c'est-à-dire un cri nihiliste, mais qui vient par réaction à trop d'optimisme irréaliste. Alors, considérons maintenant le cas de certaines folies. On dit que les fous ont perdu la raison. Eh bien, parfois, c'est exactement le contraire. C'est ceux qui sont hyper lucides et qui accentuent volontairement la sauvagerie et y ajoutent, parce que il voit comment la société fonctionne, c'est-à-dire sur l'hypocrisie. C'est pour ça que je parle à propos de certaines folies d'une lucidité supérieure. On dit fou à lier, on pourrait dire plutôt lucide à lier. Donc le fou parfois refuse de s'aveugler sur l'homme, comme y invite le catéchisme civilisé anesthésiant, d'où la provocation maximale et l'iconoclasme moral ou culturel. Alors, il y a une pièce de Camus là-dessus qui s'appelle Caligula. Alors, vous savez que ce Caligula, c'est un empereur romain qui est devenu fou, jusqu'à déifier son cheval, par exemple. Hein. Eh bien, Camus réfléchit sur cette folie, et dans Caligula, il fait voir de la façon la plus provocante qu'on peut commettre sciemment tous les abus pour savoir jusqu'où l'homme va s'abaisser en les tolérant et jusqu'à quel point on peut le mépriser. Alors il y a aussi un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle « Coup de torchon » où l'on voit la même chose. Et ici c'est moins une culture qui meurt qu'une conception anesthésiante et aveuglée de la culture. Autre cas de folie lucide, par exemple Louis II de Bavière, vous connaissez peut-être le film Ludwig ou le crépuscule des dieux de Visconti, de ce Louis II de Bavière qui est mort fou et qui a été obligé d'abdiquer hein, pour cette raison, Apollinaire parle dans la chanson du mal-aimé. Alors si on considère par exemple la parabase du cœur, c'est-à-dire le commentaire que fait le cœur dans Antigone d'Anouilh, on y voit que un geste fou peut provenir d'une exigence supérieure. Anouilh écrit « Une question de trop qu'on se pose un soir comme quelque chose qui se mange ». Alors, type de ces questions, « Les hommes meurent et ne sont pas heureux ». C'est la question que pose Caligula dans la pièce de Camus. Dans le film de Takela, Cousin-Cousine, eh bien, le personnage de Marie-Christine Barrault dit « Êtes-vous heureux ?» aux gens qu'elle rencontre dans la rue. Alors vous imaginez les grands yeux ouverts, hein, « Êtes-vous heureux ?» Les gens ne s'attendent pas à cette question et ils sont désarçonnés. Si on vous posait la question, Vincent, « Êtes-vous heureux ?» D'abord vous diriez « Celui qui me la pose est fou, non ?» Quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, non, mais c'est le genre de question effectivement piège et les gens sont toujours impressionnés de l'entendre et ne savent pas quoi répondre.
Tout à fait, tout à fait. Ils sont désarçonnés. Alors aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de faire le procès de l'humanisme en général, aujourd'hui l'humanisme peut être vu comme une imposture philosophique, comme la représentation du conformisme. Sartre, vous le savez, traite les humanistes de salauds dans la nausée. Hein. Ils s'endorment et ils endorment. La vie qu'ils nous montrent, elle est aseptisée et idéalisée, elle est irréelle. C'est le règne des représentations factices, dont parle aussi Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre, dans son roman « Les belles images hein. ». Alors, il s'agit des belles images de la culture, que, par exemple, pensez à ces cartes postales académiques, qui sont inoffensives et sans rapport avec notre vie, et qui sont précisément sages comme des images. On dit toujours « sages comme une image hein. ». Par exemple, vous allez en Grèce, vous ramenez une carte postale du Parthénon. Vous allez à Chartres, vous ramenez une carte postale de la cathédrale de Chartres, etc. Mais je dirais, finalement, une carte postale du Parthénon, est-ce qu'elle va consoler un chômeur? Est-ce qu'elle va consoler un cancéreux? Un malade du sida? Je ne sais pas. Je peux au moins poser la question, vous voyez. Donc la folie apparaît alors comme l'arrachement de ce que Jung appelait la persona, c'est-à-dire le masque social que nous portons sur notre figure. La vie sociale, c'est un jeu d'acteurs, un jeu d'hypocrites. Hypocrites en grec signifie acteur. Persona, c'est un mot latin qui signifie le masque du comédien. Donc, on peut arracher délibérément cette persona pour pouvoir faire réagir les gens par provocation. Par exemple, lisez, j'engage les auditeurs à lire deux textes de Baudelaire dans les petits poèmes en prose. Le premier, c'est « Assommons les pauvres ». Et le second, c'est le mauvais vitrier. Dans Assommons les pauvres, le narrateur en a assez justement du catéchisme anesthésiant qui lui parle de l'éminente dignité des pauvres, comme disait Bossuet, et il décide de faire un geste fou. Il se jette sur un mendiant qu'il voit dans la rue pour le rouer de coups. Mais, oh miracle, le mendiant se relève et lui rend ses coups. Alors le narrateur dit, eh bien je lui ai rendu la dignité, vous voyez, la dignité. Parce que le pauvre qui en reste résigné dans sa situation, justement, n'a pas de dignité. Vous connaissez la phrase très violente et blasphématoire peut-être, qui se trouve dans la traversée de Paris, hein, donc phrase de Marcel Aimé, le film d'Autan Lara, « Salaud de pauvre hein, », c'est ce que dit Jean Gabin à l'adresse des pauvres. Il s'agit des pauvres qui sont, résignés. Hein. Alors « Salaud de pauvre », c'est du discours intenable, hein, mais enfin il faut comprendre à quelle orientation cela obéit. Quant au mauvais vitrier, le narrateur fait venir un vitrier, il habite au dernier étage d'un immeuble, et puis il lui dit « Comment vous n'avez pas de verre vert, bleu qui, ou rouge qui fasse voir la vie en couleur ?» Le pauvre vitrier, il dit non, alors il redescend en maugréant tout l'escalier, et quand il est de nouveau tout à fait en bas, dans la rue, alors le narrateur prend un pot de fleurs et lâche le pot de fleurs qui vient écraser toute la pauvre fortune ambulatoire du vitrier. Hein. Le narrateur conclut « Qu'importe l'éternité de la damnation à celui qui a senti en une seconde l'éternité de la jouissance ». Mais il faut bien voir aussi que cette humeur satanique, pas hystérique, ils sont les médecins qui parlent d'hystérie, mais humeur satanique pour ceux qui pensent mieux que les médecins, comme dit Baudelaire, obéit justement à une intention. Le narrateur dit Socrate avait son démon, c'était un démon prohibiteur qui lui disait « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, moi j'ai mon démon instigateur qui me pousse à faire des horreurs ». Alors j'invite aussi les auditeurs à lire dans Une saison en enfer de Rimbaud le texte appelé conte, un conte, hein, qui est une antiphrase, hein, c'est le contraire d'un conte de fées, le démoniaque y apparaît avec évidence. Donc une société est exténuée quand une agression ne reçoit comme réponse que le médecin, voilà, la personne est à soigner, ou bien l'avocat, on vous intente un procès. Par exemple, il y avait un film de David Fincher, alors nouvelle question, l'avez-vous vu ? Fight Club ? Non.
Je l'ai vu aussi. Oui.
Ah, mais c'est très bien, mais ça, nous allons voir les mêmes films, nous allons aux mêmes séances. Dans Fight Club, vous vous souvenez, le héros, le personnage central, on lui apprend par exemple à provoquer quelqu'un, à arroser quelqu'un dans la rue. Normalement, on s'attend à une réponse, à une réplique. Mais non, la seule réplique qu'on peut avoir, c'est « il est fou » ou bien « je lui intente un procès ». Vous voyez ? Donc c'est une société exténuée, et qui donc appelle par retour le démoniaque. Il y a donc une hypocrisie du langage social, de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion commune. Hein. Par exemple, on sacralise le travail. Hein. On nous dit « le travail rend libre ». Cette phrase, elle est de sinistre mémoire, puisqu'elle figurait au fronton des camps nazis. Hein. Alors, on vante les travailleurs. Naguère, il y avait une passionnariat politique qui a pris sa retraite, je crois, maintenant, qui disait toujours « travailleuse, travailleur, etc. ». Est-ce qu'il y a lieu, justement, d'être fier de cela ? Est-ce que le travail rend vraiment libre ? Non, plutôt, il aliène et il humilie. Hein. Sacraliser le travail, c'est euphémiser la prostitution. Hein. Qu'est-ce que c'est que le travail ? C'est vendre sa puissance de travail, son corps, ses muscles, hein, si on est une femme de ménage, son cerveau, si on est un intellectuel, contre de l'argent. C'est proprement parler de la prostitution. Alors, vous savez que dans la Russie soviétique, il y avait un éloge du travailleur, mais cet éloge est totalement kitsch, comme le montre Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être. Il démystifie, justement, ce héros positif socialiste. Mais il suffit de lire aussi « Voyage au bout de la nuit » de Céline pour voir que les travailleurs sont complètement aliénés. Voyez aussi le poème de Prévert, « L'effort humain ». L'effort humain, dit Prévert, il porte un bandage hernière, c'est-à-dire les corps des travailleurs sont des corps mutilés, souffrants, vous voyez. Et vous savez que le gendre de Marx, Lafargue, avait écrit un éloge de la paresse, un livre qui s'appelait « Éloge de la paresse ». Alors, je parlais de kitsch à propos du héros positif socialiste. Hélas, la kitschisation, nous n'y échapperons pas. Vous voyez, Vincent, nous n'y échapperons pas. Nous serons tous kitschisés post-mortem et nous n'y pouvons rien. Sur notre tombe sera écrit « bon père, bon époux », etc. Regardez, visitez les cimetières. Vous n'avez jamais à cette sinistre crapule d'un tel. Vous avez toujours des éloges. Alors, où est-ce qu'on met les crapules, puisqu'on ne les voit jamais désignées ainsi. Et tout cela sonne faux et est faux. Et alors, j'ai choisi maintenant la chanson de Brassens, « Le temps passé », pour illustrer cette kitschisation post-mortem.
Casser leur vie. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des bras petits. Leur vie. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des bras petits.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission « Des mots pour le dire ».
Cette chanson de Brassens, effectivement, rappelle un peu l'anesthésie sociale, effectivement, face à la mort. On oublie, effectivement, le truand, l'assassin.
Voilà. Oui. Il est toujours joli le temps passé. Sitôt qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne toujours à ceux qui nous ont offensés. les morts sont tous de braves types. Donc je dis, où mettons les autres dans les cimetières? Nous n'y pouvons rien. Nous serons kitschisés. Hein. Nous serons kitschisés. Le kitsch, c'est ça. C'est l'irréalité. Hein. Et c'est l'hypocrisie. Donc cette chanson que nous venons d'entendre, elle est donnée en version jazzy, hein, ce qui montre par parenthèse que Brassens, malgré ce que l'on dit, avait des mélodies exploitables musicalement parlant. Hein, ce n'était pas du tout de la monotonie. Alors il y a donc, vous voyez Vincent, ce que j'appellerais des impasses anthropologiques. Lorsqu'une culture s'engage trop sur la voie de la lumière et de la clarté, eh bien, elle oublie une part de l'homme. Prenez par exemple la culture grecque, ou plutôt la représentation que nous faisons de cette culture. Elle nous a habitués, cette culture grecque, à l'harmonie, à la beauté, à l'ordre, à l'équilibre. Mais ce n'est là qu'un aspect de l'être humain. L'art grec n'a pas représenté de monstre, et pour cette raison, disait Éliphore, il est monstrueux. On ne réfléchit pas assez aux impasses et à la limitation anthropologique qu'une telle vision suppose. Nietzsche disait dans La naissance de la tragédie, « Il y a entre l'art grec et la vie » le même rapport qu'entre la vision du martyr et les souffrances qu'il endure. Vous voyez que beauté, équilibre et harmonie ne sont pas tout dans l'homme, ni le tout de l'homme. Et culture, d'un côté, ordre et beauté, de l'autre, ne sont pas toujours synonymes. Alors, on se base toujours pour défendre l'humanisme occidental sur un célèbre chœur de la pièce de Sophocle, Antigone. On traduit souvent le passage par « Il y a bien des merveilles en ce monde, mais la plus grande est l'homme ». Eh bien, sur ce texte, sur lequel est basée la représentation que nous nous faisons de l'humanisme grec, une autre traduction est possible. Hein. Le texte grec dit « Pollata Deina », et Deina, Deinos, a donné « dinosaure », c'est-à-dire « serpent effrayant hein. ». Et donc on peut traduire, non pas « il y a beaucoup de merveilles en ce monde », mais « multiple et l'effrayant ». C'est ainsi que Heidegger traduit dans son introduction à la métaphysique. Donc, Deinos, il ne faut pas le traduire de façon angélique. On voit dans Deinos que l'homme est capable de transgression des lois, et il y a dans l'homme une part de gouffre. Alors nous pensons et nous disons que la Grèce a élu dans l'homme sa part de lumière à l'exclusion de l'autre, mais ce n'est peut-être pas sûr. Alors réfléchissons à la beauté, Vincent. Est-ce que la beauté est évidemment est si naturelle que cela? Est-ce qu'elle n'est parfois insupportable d'irréalité? Voyez ce que dit Rimbaud dans Une saison en enfer. J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai insultée. Vous voyez? Et pensez à la fin d'un poème de Rimbaud qui s'appelle Vénus Anadyomène. Anadyomène, ça veut dire qui sort des flots. Alors il ne s'agit pas de la Vénus de Botticelli sortant des flots dans sa grande coquille, puisque Rimbaud écrit belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Vous voyez? Donc là, on a la transgression majeure. On détruit la beauté de Vénus montrant justement les ravages que la maladie peut faire sur un corps. Donc ce sentiment sauvage peut donner naissance à ce qu'on appelle l'iconoclasme. Alors l'iconoclasme, ça veut dire le fait de briser les images, et pas seulement les images, mais aussi les édifices qui incarnent et symbolisent la beauté. Par exemple, Hérostrate. Hérostrate avait incendié une des sept merveilles du monde, le temple d'Artémis à Éphèse. Il ne supportait pas cet Hérostrate que son nom demeure inconnu. Eh bien, bien lui en a pris, puisqu'on se souvient de lui, puisqu'il a incendié ce temple, vous voyez. Alors, on peut effectivement incendier un temple qui nous provoque par sa plus extrême beauté. C'est aussi ce que fait le héros d'un roman de Mishima qui s'appelle Le Pavillon d'Or. Hein. Ce pavillon d'or est tellement beau que le héros va décider de le détruire. André Breton disait que le geste surréaliste élémentaire serait de descendre dans la rue et de tirer au revolver au hasard dans la foule, quand le discours lénifiant des humanistes nous anesthésie. Acte poétique élémentaire selon Breton. C'est aussi la version moderne des Rostrates dans la nouvelle de Sartre, dans Le Mur, qui porte ce nom, Érostrate. Hein. Un personnage se promène avec un revolver dans la poche parce qu'il en a assez d'entendre parler d'humanisme. Rimbaud disait « la morale est la faiblesse de la cervelle ». Nietzsche disait que nous voulons tout moraliser, c'est la maladie qu'il appelait la moraline, vous voyez. Eh bien, on comprend que par réaction, il puisse y avoir ces gestes fous. Aujourd'hui, la beauté est ramenée à l'agréable, ce qui fait plaisir aux yeux. Mais on oublie le côté numineux de la beauté, c'est-à-dire effrayant, numineux. Numineux, c'est le contraire de lumineux. Numineux vient de numen, qui veut dire puissance sacrée en latin. Hein. On oublie la mort des personnages qui ont voulu voir les dieux. Par exemple, Sémélé, dans la mythologie grecque, a voulu voir la figure de Zeus et elle a été réduite en cendres. Actéon, qui a vu Diane en train de se baigner, donc toute nue, eh bien, il a été condamné à être dévoré, à être changé en cerf et à être dévoré par ses propres chiens. Tout ça, c'est une métaphore de l'animalisation d'Actéon et ses propres chiens, c'est qui le dévore, c'est ses propres pulsions. Quant à la Bible, alors, Vincent, on sait que dans l'Exode, Exode 3, 33, Dieu dit « Nul ne peut me voir et vivre hein, ».« Nul ne peut me voir et vivre ». Et dans le film « Les Dix Commandements », quand Charlton Heston descend du mont Sinaï, il a la figure bronzée. Il a pris un coup de soleil parce que il a vu un peu de Dieu. Mais il l'a pas vu de face, il l'a vu de dos d'ailleurs. Hein, voyez. Donc il y a ce que j'appellerais un effroi du beau, hein. Rilke, dans ses élégies à Duino, dit que le beau n'est que le commencement du terrible. Voyez aussi ce que dit Borges à propos de la beauté poignard dans Fiction, dans une nouvelle qui s'appelle Le miroir et le masque. Visconti, dans Mort à Venise, nous montre que la beauté peut mener à l'abîme, précisément. Quant à Bertrand Blier, dans son film « Trop belle pour toi », alors je ne vous demanderai pas si vous l'avez vu, Vincent, mais dans « Trop belle pour toi », la beauté incarnée par la musique de Schubert est provocatrice pour le personnage incarné par Depardieu. Il dit « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce Schubert hein ?» Alors que la vie, elle est autre, elle est problématique, elle nous fait souffrir, vous voyez. C'est dans l'optique du kitsch que la beauté est réduite à l'agréable, ce qui fait plaisir aux yeux. En réalité, la vraie beauté, elle nous casse, elle nous déchire. D'ailleurs, quand on dit que quelque chose n'est pas intéressant, on dit ça ne casse rien, vous voyez. Donc, casser, déchirer, la beauté, disait Breton, c'est une catastrophe, elle nous fait mourir. On meurt en beauté, vous voyez. On ne veut pas voir le divin, eh bien, on ne veut pas voir la beauté non plus, vous voyez. Donc, il y a certains visages, finalement, qui nous tuent, y survivre est très difficile. Hein. On peut faire alors des inversions iconoclastes. On peut dire, comme Shakespeare dans Macbeth, « Le beau est affreux, l'affreux est beau hein, », vous voyez. Et alors, on peut plonger dans l'horreur. L'horreur est humaine. On dit souvent l'erreur est humaine. Moi, je dis l'horreur est humaine. Hein. Jean Genet, dans Notre-Dame des Fleurs, nous dit « Le seul moyen de résister à l'horreur est de s'y plonger ». Donc, il peut y avoir, par réaction contre un paternalisme bourgeois, un geste de folie meurtrière. Alors, nouveau film. Avez-vous vu La Cérémonie de Chabrol? Peut-être pas.
Je ne m'en souviens pas.
Voilà. Donc, dans La Cérémonie de Chabrol, grand film, à partir d'un roman de Ruth Rendell qui s'appelle L'Analphabète, l'héroïne, qui est incarnée par Sandrine Bonner, qui joue le rôle d'une bonne, ne supporte pas que ses maîtres aient découvert qu'elle était analphabète et veuille lui apprendre à lire. Elle est provoquée, en quelque sorte. Et à la fin, ça se termine par un massacre. Hein. au coup de fusil, elle massacre la famille de ses employeurs sur un fond de musique de Mozart, puisque cette famille est en train de regarder la flûte enchantée de Mozart. Et c'est symbolique, ça. Hein. Le massacre, le carnage se fait à côté de ce qu'il y a de plus élevé dans la culture, vous voyez. De même, alors, un autre film, American Psycho, à partir d'un roman de Bret Allison Ellis, hein, nous montre comment un golden boy, qui vit dans un monde d'apparence, de frime et de look, pour lui seul compte la qualité, si vous voulez, de sa carte de visite, hein, entre eux, ils se disputent sur l'esthétique de la carte de visite, eh bien, ce golden boy va devenir un serial killer, hein, il tue une vingtaine de personnes, etc., vous voyez. Donc, il faut réfléchir à tout cela. Le film de Chabrol est inspiré un peu de l'histoire des sœurs Papin, qui a donné aussi à Genet le sujet de sa pièce « Les Bonnes assassinant leur maîtresse ». Alors nous allons écouter, évidemment nous sommes toujours tentés par la beauté, et nous allons écouter à cet égard la chanson d'Alain Souchon, « La beauté d'Ava Gardner ».
J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleurs, ils regardent s'en aller dans la mer. Les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit les soirs d'hiver. Les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Ava Gardner.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Oui, Michel, je me rends compte en vous écoutant que les gens se révoltent toujours contre la beauté, mais c'est une beauté qui est quand même une beauté déclarée par la société. Ce n'est pas...
Absolument, c'est la beauté du top modèle. Hein.
Oui, oui.
Bon, mais on voudrait en faire une règle, hein. Quel rapport avec notre vie réelle, hein? Je dirais même que la sauvagerie en nous ne s'éveille pas forcément en période troublée, par exemple à l'occasion des guerres ou des conflits, hein? Parce que en période troublée, l'âme peut au moins s'ouvrir à la pitié. La visite d'un hôpital ne rend pas cruel. Mais par contre, hein, on peut trouver le kitsch, les paillettes et le strass de la télévision tellement provocant qu'on a envie d'éclater, si vous voulez. Par exemple, pour le kitsch, le Grand Prix Eurovision de la chanson qui draine beaucoup de monde. Hein. Bon, eh bien, on peut trouver ça absolument insupportable. Donc il faudrait ici faire un travail psychologique sur la transgression. Comment s'opère la transgression ? Supposons Vincent, une belle fin d'après-midi d'été, au bord d'une belle pelouse, inondée des rayons du soleil couchant, dans un décor idyllique ou paradisiaque. Prenez par exemple la Grande Motte, si vous voulez, avec ses pelouses, hein, voilà. Eh bien, c'est alors que la cruauté peut faire irruption dans notre âme. Nous pouvons sentir jusqu'à la nausée l'indifférence de la nature et l'artifice, les réalités de tout ce décor, par rapport à ce que nous sommes aussi au fond de nous-mêmes. Voici deux strophes d'un poème de Baudelaire à celle qui est trop gaie. « Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein, et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. » Vous voyez, la beauté du paysage peut être une ironie et une provocation. Alors le narrateur dans le poème prend une fleur, va la casser nerveusement, hein, pour se venger de cette nature qu'il sent insolente. Regardez, Vincent, comment fonctionnent les films d'épouvante. La plupart du temps, les films d'épouvante commencent dans le calme, dans l'anodin, dans ce que j'appelle l'irénisme. C'est un mot qui vient du grec eirene, qui veut dire la paix. Vous avez des beaux quartiers, de belles pelouses tracées au cordeau, bien tondues, etc. Et alors après, ces films vont s'achever dans la sauvagerie et dans l'horreur. C'est qu'il y a une signification symbolique à ce passage ou à cette transition. En effet, ce n'est pas toujours la vue du sang qui trouble ou scandalise, mais parfois tout ce qui nous le fait oublier. Parce qu'un être n'est pas seulement un bel aspect et une belle peau, il est tout ce qu'il y a en dessous. En dessous, il y a les nerfs, les viscères, les organes, la chair. Hein. Sous la peau, il y a les veines, il y a ce qu'on appelle la sanie en médecine, hein, la pourriture du corps, les os. Prenons le son de l'anatomie, de la dissection, de l'opération chirurgicale. Voyez, l'être humain a deux pôles, la Vénus de Milo, d'un côté, la beauté, hein, et de l'autre côté, l'écorché. Hein. Donc, toute haute culture doit rendre compte de ces deux pôles, doit les montrer, et toute culture abâtardie nie le pôle négatif. La culture, en réalité, doit rendre compte de l'homme complet. Voyez ce que dit Nerval, « Rose blanche, tombée, vous insultez nos dieux, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. L'abîme sent le gouffre. Hein. » Alors, il y a une phrase du dramaturge anglais Harold Pinter qui m'a toujours fait réfléchir, Vincent. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit à vous. « Ce qui me fait le plus peur au monde, c'est juste une tondeuse à gazon sur une pelouse. » Qu'est-ce que vous en diriez, Vincent? Ça vous ferait peur, ça, ou pas? Vous auriez peur qu'elle se transforme en monstre? Mais... Ouais, Vincent,
Non, la peur de la banalité, bien évidemment.
Voilà. Donc, ce qui fait peur, c'est ce qui est caché derrière la tondeuse à gazon sur la pelouse. C'est-à-dire la vie petite bourgeoise, la vie sans vague, la vie moderato cantabile, comme on dit, hein, modérée et chantante. Cette vie-là, c'est une abdication, et en fait, elle cache des gouffres, comme il se voit dans un autre film, dont je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu, American Beauty. Vous l'avez vu, American
Beauty?
Oui. Ah, voilà. Mais nous nous rencontrons là-dessus. Dans American Beauty, vous avez, pareil, les belles pelouses, du kitsch avec la fille dans son lit de rose, etc. Et puis vous avez, à la fin, je ne déflore pas la fin, mais tout ça va basculer dans quelque chose de totalement horrible. Donc il y a une ironie du beau par rapport à ce que nous sommes au fond de nous. Dans la vie, vous voyez, Vincent, nous attendons souvent dans la beauté des choses quelque chose qui ne vient jamais. Vous connaissez la Barbe bleue de Perrault, hein, et la fameuse phrase « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Eh bien, la sœur Anne répond, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est-à-dire, il y a de la beauté de la nature, mais au fond de nous, il y a un sentiment de profonde insatisfaction. Vigny, dans la maison du berger, s'adresse à la nature et lui dit, vivez froid de nature et revivez sans cesse, vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi. Il dit aussi, en faisant parler la nature, on me dit une mère et je suis une tombe. Vous voyez, aussi le poème de Sully Prudhomme, les yeux des gens qui sont morts, ils dorment dedans les tombeaux et le soleil se lève encore. Comment le soleil a-t-il le courage de se lever, ou l'audace, ou l'affront, ou l'insolence de se lever alors qu'il y a des yeux aimés qui se sont fermés pour toujours? Voyez, la beauté de ce point de vue, elle est ce que j'appellerais un aguichage ou un teasing qui est toujours décevant. Paul-Jean Toulet nous dit très bien « Prends garde à la douceur des choses ». C'est le fameux poème dans Arles, hein. Voilà, « Prends garde à la douceur des choses ». Puisque c'est quelque chose, notre vie n'est pas douce, vous voyez. Alors, je dirais que c'est la fin des larmes. On ne peut même plus pleurer. Les larmes, c'est confortable, hein. On a alors la larme à l'œil, si vous voulez, hein. Bon, quand on est ainsi révolté, on ne peut pas pleurer. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre, dit Rimbaud, hein. Dans une saison en enfer. Donc c'est le refus du dénouement et de la réconciliation. Voyez par exemple ce que dit Racine. L'école nous dit que Racine c'est un poète doux et tendre. Je n'en suis pas sûr du tout. Voici ce que dit Oreste dans Andromaque. De quelque part ici que je tourne les yeux, je ne vois que malheur qui condamne les dieux. Méritons leur courroux, justifions leur haine, et que le fruit du crime en précède la peine. Voyez. Donc, les dieux nous provoquent, à notre tour, provoquons-les par des gestes fous, hein, ou des gestes de revanche. Phèdre, chez Racine, dit la même chose. Hein. « Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. » Donc, Phèdre regrette moins son crime que le fait de ne pas en avoir profité. Il n'y a pas de solution simple. Hein. On peut pas réconcilier un être humain avec la vie facilement. Quand à un enfant sensible, on enlève un bonbon, de rage, il piétine tous les autres bonbons. Hein. Et le souvenir du malheur qu'il a connu autrefois lui fait détruire tous les bonheurs. C'est le cas de Nastasia dans L'Idiot de Dostoïevski. Elle a été malheureuse et maintenant elle ne veut pas de la main tendue du prince Mishkin parce que c'est une question de dignité personnelle, vous voyez. C'est un refus postulatoire de la consolation qui vient d'un excès de malheur ressenti, vous voyez. De même, quand un enfant a faim, vous le savez, un petit bébé qui a faim, il crie tout rouge à s'étrangler, eh bien, il faut lui donner tout doucement le biberon ou la nourriture, parce que sinon, il va s'étouffer, vous voyez. Donc, il faut prendre garde, justement, à la façon dont on accueille la souffrance ou le malheur. Hein. Donc, Dieu nous provoque, peut-être que je provoque les auditeurs en disant cela, en disant que Dieu, par exemple, dans la nature, est un massacreur. Hein, où sont les meurtriers, mon ami? Qui les condamnera quand le juge de souverain en personne devrait passer en jugement? C'est ce que dit Achab dans Moby Dick et aussi dans le film de John Huston qui en est inspiré. Vous savez que la mer est belle, mais que sous la surface étincelante de l'eau, il y a des meurtres constants, hein. Il y a les prédateurs, les requins, vous voyez, le monde est un spectacle où le meurtre fourmille et la création se dévore en famille, disait Victor Hugo. Donc il ne faut pas voir seulement la surface de l'eau, il faut voir en profondeur ce qui se passe. Dans Soudain l'été dernier, qui est une très belle pièce de Tennessee Williams, il est fait mention du massacre des petites tortues aux îles Galapagos. Vous savez, Vincent, les tortues vont pondre à l'intérieur de la terre, sur dans le sable, et puis les œufs éclosent et les petites tortues doivent gagner la mer. Et pendant l'instant qu'elles gagnent la mer, maladroitement, les oiseaux fondent sur elles et les dévorent. Donc Sébastien, le héros, a vu la face de Dieu, cette face massacrante de Dieu. Alors, les églises, d'habitude, nous disent que le monde est bon et nous menacent de l'enfer pour après la mort, mais je pense que c'est l'inverse qui est vrai. Pour les cathares, par exemple, l'enfer était ici-bas. C'est la fameuse tribulation de l'évangile de Jean, la tlipsis. Dans le monde hindouiste, c'est le samsara, hein, c'est-à-dire l'enfer ici-bas. Et l'enfer après la mort me fait assez rire à côté. Hein. Je suis de la vie de Malherbe, et si l'enfer est fable au centre de la terre, il est vrai dans mon sein. Donc, pour conclure, je dirais que le top modèle, vous voyez, c'est une insulte à la ménagère de banlieue, qui est vieillie ou enlaidie, et qui peut le voir, ce top modèle sur la télé. Mais elle, hein, pensons à elle, des personnages comme naguère Claudia Schiffer ou Cindy Crawford, qu'on adorait pour leur beauté, sont en réalité insupportables. Mais tout ce qui vit, vieillit ou vieillira, il ne faut donc rien exclure, et il faut tout garder. Alors je dis souvent, j'aime bien les jeux de mots, adieu la beauté, et au diable l'avarice, vous voyez, l'avarice. Hein. Donc, nous allons entendre une chanson de Juliette Gréco, « Si tu t'imagines, fillette, fillette hein, », à partir, je crois, d'un poème de Prévert, voilà. Alors, Vincent, nous pouvons dire aux auditeurs, rendez-vous à la semaine.
Oui, rendez-vous à la semaine prochaine, mais pour aller un peu dans votre sens, il y a une publicité qui passe actuellement, enfin, qui ne passe pas, pardon, ce sont les affiches que je vois aux arrêts de bus, qui représentent un Alain Delon très très jeune et qui fait une publicité pour un parfum. Je crois qu'Alain Delon n'a plus les 25 ans que montre cette image.
Voilà,
voilà, c'est un peu le...
Voilà, oui, c'est une très bonne conclusion. Tout ce qui vit vieillit ou vieillira.
Voilà. Donc nous allons écouter Juliette Gréco et
à la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Au revoir.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.